Bonjour à tous, cela fait déjà plusieurs mois que le dernier podcast Génération 81.be est paru. Et après les émissions jeunesse, les séries télé de science-fiction et les séries télé policières, il restait un créneau que je voulais absolument aborder. En effet, je voulais absolument vous présenter mon top 10 des films cultes des années 80. Ceci dit, chacun a sans doute sa vision personnelle d'un film culte, de quelque période qu'il soit. Mon choix s'est donc basé sur certains critères subjectifs, dont le fait que ce ne sont que des films hollywoodiens, et donc anglophones à la base, même s'il est un fait qu'à l'époque, la plupart des francophones que nous sommes les avaient vus en français avec de célèbres voix de doublage. Ce top m'a donc été inspiré du classement effectué par les responsables de l'encyclopédie des films des 80s, par Total Film et SFX, des magazines mensuels cinématographiques britanniques, spécialisés et revus par mes soins quand je n'étais pas tout à fait d'accord avec leur classement. Comme je le dis toujours, je ne suis pas le seul, choisir c'est renoncer. Voici donc un top personnel des films phares des années 80. Avant tout, générique. Quoi de mieux que ce générique culte qui fut la petite séquence musicale piquée à C'est chouette, l'émission de cinéma de Récréa 2 dans les années 80. Pour commencer, abordons les films que j'ai placés de la place 20 à 11. Ces films sont cultes, mais ils ne sont pas rentrés dans mon top 10. Par contre, ils méritent une citation. Numéro 20, un film de 1983 de Brian De Palma, sorti en Belgique en mars 84, qui met en vedette Michel Pfeiffer et Al Pacino dans le monde de la mafia. J'ai nommé Scarface. Numéro 19, un film de 1980 sorti en novembre en Belgique qui va faire frissonner une génération de spectateurs. Basé sur un roman de Stephen King, réalisé par Stanley Kubrick et démontrant la capacité d'acteur de Jack Nicholson, il s'agit du terrifiant Shining. Numéro 18, un film de fin de décennie sorti en décembre 1989, réalisé par Tim Burton et qui sera le premier d'une longue série. On découvre un Michael Keaton en tenue de super-héros avec Jack Nicholson comme ennemi et Kim Basinger comme allié. C'est une version que l'on pensait sombre à l'époque de Batman, l'homme chauve-souris. Un trio au numéro 17 car trois épisodes d'une même série qui marquera toute la décennie. En effet, en février 80, janvier 83 et janvier 86, on retrouve dans nos cinémas des films datant à chaque fois de l'année précédente, réalisés et joués par le même Sylvester Stallone accompagné de Talia Shire. On parle bien évidemment de la saga Rocky, du numéro 2 au numéro 4. Un film pour adolescents prend la 16e place. Il sort en décembre 85, réalisé par Richard Donner, avec un casting de jeunes talents, tels que Sean Astin, Corey Feldman ou Josh Brolin. Ce sont les aventures de jeunes reprises dans un mythique film qui s'appellera Goonies. Sur la 15e place, on retrouve un premier film de science-fiction datant de 87. Il sortira en janvier 88 chez nous. Ce film, réalisé par Paul Verhoeven et porté par l'acteur Peter Weller, présente l'histoire d'un représentant de l'ordre laissé pour mort qui revient dans une armure de fer pour lutter contre le crime. C'est Robocop. Une place plus haut, la 14e, vient un autre film de science-fiction qui va également lancer une grande série de films. Ce premier opus date de 87 et sortira chez nous en mois d'août. Il possède un casting musclé avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers ou Jesse Ventura et est réalisé par John McTiernan. C'est l'histoire d'une rencontre entre des humains et un représentant d'une race extraterrestre venue à la chasse sur Terre. Vous avez reconnu Predator. Alors, sur la position des superstitieux, c'est-à-dire la 13e, je placerai l'histoire des 4 garçons d'une douzaine d'années partis à la recherche d'un corps d'un enfant de leur âge ayant disparu. Sorti en octobre 87, en Belgique, bien que datant de 86, ce film de Rob Reiner bénéficie d'un casting 4 étoiles, avec des River Phoenix, des Will Wheaton, Corey Feldman ou encore Kiefer Sutherland, voire Richard Dreyfuss. Sa musique sera également reconnue, c'est Stand By Me. Avant-dernière place avant le top 10, on retrouve Kiefer Sutherland et Corey Feldman dans un film de 1987 de Joel Schumacher. Il a été sorti en 88, en octobre, chez nous. Ce film aborde un double point de vue horrifique et humoristique en parlant d'une bande d'enfants aux prises avec des vampires. Il s'appelle Génération Perdue ou Lost Boys en anglais. Dernière marche avant le top 10, celle qui entraîne le plus de frustration. J'ai longtemps hésité, mais j'y ai placé un film culte de science-fiction qui s'adressait aux enfants. Sorti pour Noël 82, c'est un film de l'immense Steven Spielberg où le héros principal est un extraterrestre court sur pattes qui illumine son gros doigt pour soigner les bobos. C'est E.T. l'extraterrestre. Nous voici donc enfin au moment de détailler les 10 premières places. Numéro 10, Breakfast Club, en 1985. Un casting parfait pour ce film de John Hughes qui présente des discussions d'adolescents qui se retrouvent en heure de colle pour la journée et vont faire de ce moment de détention un moment qui comptera pour toute leur vie.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions ?
Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe ?
Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée.
J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi.
Avant la tombée de la nuit, ils feront tout ce qu'il ne faut pas faire.
Les filles n'arrivent jamais à avaler la fumée. Et comme ça, c'est tout.
Ils livreront tous leurs secrets.
D'abord, je suis nymphomane.
Et tes parents le savent ?
Ils prendront tous les risques.
Ça fait du bien de commettre de mauvaises actions.
Hein? Et ils seront plus proches les uns des autres qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.
Pourquoi tu as fait ça?
Tu l'aurais jamais fait.
Oh. Breakfast Club. Un club qui n'exista qu'un jour.
Je ne veux plus être seule. Jamais.
Maintenant, t'es plus obligée.
Mais qui devait changer toute leur vie.
Je vous considère comme mes amis. J'espère que je me trompe pas.
Universal présente Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy dans un film de John Hughes.
Pourquoi t'es si gentil avec moi? Parce que tu me laisses faire.
Breakfast Club.
Numéro 9, 1986. La folle journée de Ferris Bueller. Ferris Bueller est l'enfant que vous auriez voulu être et sa journée va être la journée que vous auriez voulu avoir. On retrouve Matthew Broderick, qui est un adolescent super-héros pour tout qui a eu cet âge dans les années 80. John Hughes a écrit le script en un week-end et le résultat fut un taux de bonne humeur démesuré pour tous ceux qui ont participé au projet. Ceci a fait de ce film la comédie feel-good des 80s.
Ferris, tu es malade. Tâche de ne pas faire d'imprudence, il faut que tu guérisses.
Papa, tu as peut-être raison.
Je sais que j'ai raison.
Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort.
Ils ont marché.
Pourquoi lui sécherait alors que tout le monde est obligé d'aller au lycée?
Je vais sécher aujourd'hui, alors habille-toi et rapplique à la maison.
Ferris, mon père aime cette voiture plus que sa vie.
Un homme qui fait passer ce genre de folie avant ses obligations essentielles ne mérite pas semblable voiture.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire, mais de savoir ce qu'on ne va pas faire.
Il fait tout ce qu'il veut.
Depuis que je connais, j'ai pu me rendre compte que tout lui réussit.
Quand il veut.
Il est très relax.
Et il s'est jamais épinglé, le salaud.
La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Tu réalises que normalement, on devrait être en gym en ce moment.
Ce qui est surtout à craindre chez un personnage comme Ferris Bueller, c'est qu'il ait une mauvaise influence sur les bons sujets.
Ferris Bueller, tu le connais pas?
Ah si, je le connais, il me fait bûcher ma physique.
Pour eux, c'est le mec plus ultra.
Salut, je suis Ed Froman.
Le roi de la saucisse de Chicago?
Oui, c'est moi.
Oui, tu sais, moi je le verrais bien en champion de la contestation défendant les causes perdues.
J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne permettrai pas qu'un petit morveux essaie de me tondre l'herbe sous le pied.
Est-ce que tu voudras te marier? À Central Park en mai. Je veux dire si j'étais pas un imbécile.
Bien sûr.
Aujourd'hui?
Quand il verra que toute sa vie il a travaillé pour des prunes, alors il se souviendra d'Edouard Rooney.
Salut Dodo.
Elle est morte, la voiture Cameron. Tu l'as tuée. Mon meilleur pote a craqué.
Je te tiens, Ferris.
Je pense qu'il faut répondre de façon audacieuse.
Finalement, je t'ai gaulé.
Un truc vachement osé.
Oh, il est tellement extra. Toi aussi, il l'adore.
Je t'embrasse.
Un truc dément.
Folle journée de Ferris Bueller. La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce.
Numéro 8, en 1982, Blade Runner. Visuellement sombre et pourtant époustouflant, ce film de Ridley Scott semblait réel en 1982 et semble toujours réel de nos jours. Son vrai pouvoir se trouve dans sa tension de fond, ou dans une intrigue noirâtre qui refuse de céder à des réponses faciles, et dans un lot de performances parfaitement jugées. Le Descartes pessimiste, joué par Harrison Ford, est une balance idéale au Roy Batty grandiloquent, joué par Rutger Hauer, le plus humain des tueurs inhumains inimaginables.
Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a 2 semaines. 6 réplicants, 3 mâles, 3 femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a 3 nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation.
Qu'est-ce qu'ils cherchent à la Tyrell Corporation?
Ah, tu vas me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie.
Je m'appelle Rachel.
Deckard.
Il dit vous êtes un Blade Runner.
Numéro 7, en 1981, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Un an après que l'Empire est contre-attaqué, Han Solo a saisi son chapeau pour aller lutter contre les nazis pour la découverte de l'Arche de l'Alliance dans un film au rythme d'un rocher roulant dans une allée. À travers la célébration des aventures de films de série B, on trouve l'emploi d'une sensibilité évidente qui ne diminue pas l'action mais l'élève à un niveau encore supérieur.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue.
Selon la Bible, l'Arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'Arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'Arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible.
Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort.
L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons.
Fie-toi à moi.
Et par les mauvais.
Je vais tout vous dire, tout.
Oui, je sais que vous parlerez.
Les aventuriers de l'Arche perdue.
Lâchez-la! Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'Arche, elle va partir par camion au Caire. Baisse-toi!
Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
Numéro 6, 1984, Ghostbuster. Qui allez-vous appeler? Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson, bien évidemment. Ils vont sauver New York avec des jouets merveilleux et amusants. Un responsable du studio qui avait vu une première version avait craint pour sa carrière. Mais heureusement, à partir du moment où le premier trio de héros se met en chasse d'un fantôme dans une librairie, ce divertissement irrévérencieux devient le blockbuster le plus simplement amusant qui ait jamais été fait pour l'époque.
Des fantômes.
Allô, SOS fantômes.
Ils sont palpables.
Ah oui ?
Implacables.
Chez vous ?
Indélogeables.
Un client, youpi !
SOS fantômes.
Vous l'auriez pas vu en revenant ?
Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière.
Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gunn.
Ce sont des professionnels.
Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique.
Ah ! Et vous l'avez vu ?
Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde.
Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques.
Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu.
Sacrifice humain, copulation entre chien et chat, hystérie collective.
Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes.
Désirez-vous ce corps qui brûle ?
C'est la question piège ?
SOS fantômes ! SOS fantômes ! SOS fantômes !
Sabre au clair !
En action ! SOS fantômes !
Tire au but !
Fémigène !
SOS fantômes !
Mettez le paquet !
Prêt !
SOS fantômes, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société. SOS fantômes.
On est venu, on l'a vu, on l'a raboté le...
Numéro 5, 1984, Terminator. James Cameron avait moins de 7 millions de dollars. Arnold Schwarzenegger, moins de 100 mots. Et c'est tout ce qu'il fallait pour construire un thriller de science-fiction haletant, rempli d'humanité. Élevé à partir d'aliens, de slashers movies, de thrillers conspirationnistes et de films noirs, James Cameron a utilisé intelligemment son argent pour designer un outil de science-fiction léger et métallisé, qui devint une bête impétueuse, froide et implacable au box-office.
Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor.
Sarah Connor ?
Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle.
T'es mort, chérie ?
Qu'est-ce que c'est ? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible.
Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal.
Elle ne le sait pas encore. Et c'est elle qui veut tuer.
Tu as pu joindre la suivante de la nuit ?
Non, elle est toujours sur répondeur.
Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang ? J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre.
Personne ne pourra la sauver. Sauf...
Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination.
Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever ?
Ce n'est pas un homme, c'est une machine.
Des êtres comme ça, ça n'existe pas.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Tu veux dire que tu viens du futur ?
Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée ?
Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi ?
L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre, pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine. mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer.
Tu peux l'empêcher ?
Je ne sais pas.
Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator ? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator.
Numéro 4, 1986, Top Gun. Don Simpson l'appelait le Star Wars sur Terre. Tony Scott y voyait plutôt un Apocalypse Now sur un porte-avions géant. Top Gun est le film d'action ultime des 80s grâce à son concept de haute voltige associé au sourire carnassier de Tom Cruise, aux effets visuels montant l'air de Jeffrey Kimball et à l'ogive de musique synthétique d'Harold Faltermeyer. Tout ce dont on a besoin de savoir sur le cinéma des 80s en 110 minutes terriblement prudentes.
Qu'est-ce qui vous motive ?
J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale.
Tu veux savoir qui est le meilleur ici ?
C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang-froid et jamais d'erreur.
Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres.
Je m'appelle Maverick.
Maverick ? C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet.
J'ai reçu un ordre vous concernant et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun.
Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Vous deviendrez encore mieux.
T'as pas encore saisi.
Saisi quoi ?
Qui est le meilleur pilote ?
Moi, dans cette école, je suis instructeur. Et tous les deux mois, je vois une vingtaine de nouveaux furieux.
Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable.
C'est vrai.
Et même très dangereux. Il a rien contre le pilote. Mais contre son attitude.
Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le branche.
Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote.
J'ai une famille, moi, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air.
Et toi, tu es ma seule famille.
Jamais je ne te ferai ça le coup.
À Top Gun, on va vous apprendre le combat.
Encore 10 secondes et c'est bon.
Ici, pas de points pour les secondes places.
Exception,
ce que tu fais en mission, c'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches.
Iceman, à vos ordres. Hollywood,
à vos ordres.
Secteur 2, vous, Maverick, vous les mettez en réserve avec Merlin en alerte.
À vos ordres.
Les MiG sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bain.
J'en ai un qui est à gauche.
C'est pour ça qu'on vous a formé.
Trois MiG face à face, plus bas, gauche, gauche.
Vous êtes les as de l'Amérique.
Un MiG est toujours en haut, un MiG est toujours en haut.
Gonflez-vous d'orgueil.
Je vais accrocher un radar.
Autorisation de tir.
C'est bien accroché.
Feu.
Je shoot.
Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
Maintenant, le trio de tête. Numéro 3, Alien avec un S, en 1986. Éloigne-toi d'elle, sale pute. La phrase choc de la fin du film. Un séquel du choc de l'espace que fut l'Alien de Ridley Scott avait été planifié dès 1979. Mais ce ne fut qu'avec l'embarquement de James Cameron dans le projet que cela devint concret. En épissant une action trop énergétique de clichés de films de guerre, il obtint un film haletant. Exaltant, explosif et rempli de surprises, il transforma Sigourney Weaver en une authentique star de film d'action dans ce qui allait devenir son rôle le plus iconique. Sa nomination aux Oscars qui suivit était non seulement méritée, mais ce fut aussi la première fois qu'une performance dans un film de science-fiction était reconnue. À jamais un des plus grands films d'action.
Pas de panique. Moi et mon escouade de bastonneurs, on pète les flammes, on va vous protéger. Visez le travail. On a ce bijou à visée automatique et à mise à feu laser. Waouh! Vous allumez une ville entière avec ce tromblon. Et du nucléaire, on a du bactériologique.
Boucle-la, Hudson.
Qu'est-ce qui fait chaud ici?
Eh oui, mec, mais on a un très bel été.
Ta gueule, Hudson.
Aucun mouvement?
Rien de rien.
Le bide. Poussez-nous la porte!
nom de Dieu, mais faites que ce soit pas vrai.
C'est vrai.
Et peut-être que t'as pas bien regardé le match à la télévision, mais on vient de se faire torcher le cul, mec.
Merde.
Il nous faut l'autre navette qui est en attente à bord du vaisseau. Il est sûrement possible de l'amener ici en guidage télécommandé.
Ah oui, c'est notre navette qui avait l'émetteur, et il a pété avec.
Bon, la solution, moi, je la connais pas, mais on a intérêt à en trouver une. Il faut réfléchir à un moyen.
Réfléchir à quoi? On est baisé. On va crever ici.
Tu la fermes.
Numéro 2, 1980, George Lucas, l'Empire contre-attaque. Devoir mettre en place la suite du premier Star Wars qui avait été un succès mondial était une gageure. George Lucas était tourné vers un de ses mentors, Irvin Kershner, pour le diriger. Celui-ci dit ne vouloir prendre ceci en main qu'avec la possibilité d'étendre l'univers de l'original, le faisant grandir et devenir plus sombre. Il voulait de l'humour, de l'émotion et que les personnages soient intéressants. Il voulait que chacun révèle son côté émotionnel, y compris les robots. On peut dire que ce fut une réussite. Là où Star Wars était surtout à propos des dernières minutes d'évasion et les petits jeunes qui faisaient saigner le nez de l'Empire démoniaque à la dernière minute, ici, les personnages principaux terminaient l'action avec des membres en moins, congés dans la carbonite ou pleurant leur amour perdu. Star Wars était un grand film popcorn, mais il n'a jamais choqué personne comme l'Empire le fit. Cas d'espèce, le légendaire moment « Je suis ton père, Luke ». Lucas et Kershner ont tout fait pour garder cela secret. Et peu de personnes connaissaient cette ligne que James Earl Jones allait doubler plus tard au-dessus d'une fausse ligne inscrite dans le script.
Star Wars, l'Empire contre-attaque.
Saga de la guerre des étoiles est maintenant dans notre galaxie.
Et numéro 1, 1985, retour vers le futur. Pourquoi ne fait-on plus de films de ce type de nos jours? Parce qu'en fait ce serait quasi impossible. Le voyage fantastique imaginé par Robert Zemeckis, connu comme spécialiste de la science-fiction complexe, de comédie et de films pour ados ou de cauchemars psychologiques, a été conçu pour être unique. L'intrigue pour débutants ne pouvait être plus intelligente ou bizarre. Un scientifique dingue, Christopher Lloyd, qui envoie Michael J. Fox dans les années 50 dans une DeLorean customisée pour inspirer son père tout en évitant de sortir avec sa mère. Une fois que l'amusement est en marche, les événements s'enchaînent de manière parfaite, avec la précision d'une montre suisse. Le père rate sa rencontre avec la mère et Marty doit se battre pour recréer son existence liée à cette relation. Et ceci jusqu'à un final plein de tensions. On y retrouve du Doctor Who, du Happy Days, et le film de Zemeckis mélange tellement de styles qu'il est difficile d'en sortir un. Mais en tout cas, il exploite parfaitement les prémices remplies d'uranium, ainsi que son fabuleux casting. Michael J. Fox n'a jamais été meilleur qu'en voyageur dans le temps, inventeur du rock'n'roll et faiseur de couples pour ados des 80s. Bref, Back to the Future est un film vers lequel on peut toujours effectuer un retour.
Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale.
Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça.
Vous
dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ?
Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé.
Ça marche !
C'est une soucoupe volante venue de l'espace !
Vite, sauvez-vous !
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Je dois arriver, c'est pas possible.
Il fait la connaissance de son futur père.
Mais c'est un voyeur.
Et il plaît beaucoup à sa mère.
Il est absolument censé dormir dans ma chambre.
Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur.
Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre.
Bon sang, Doc, je suis même pas né.
Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur.
Merci à tous pour votre écoute et peut-être à plus tard pour d'autres tops ou d'autres souvenirs de la génération 80.
Au revoir et à bientôt.